Je crois que c'est grâce à mon père, probablement, que je suis devenu un écrivain.
Mario Vargas Llosa.
S'il n'aurait pas détesté tellement l'idée de que son fils devienne un écrivain, je n'aurais pas eu le courage pour persévérer. Je crois que c'est parce que j'ai senti que c'était une manière de résister à mon père, d'affirmer ma propre personnalité contre la sienne.
Ça peut pas faire de mal.
Mon rejet de l'autoritarisme, c'est quelque chose que je dois à mon père aussi. J'ai une véritable passion pour la liberté et un dégoût qui est vraiment viscéral, hein, de l'autoritarisme, de la brutalité. Et probablement, c'est aussi quelque chose que je dois à mon père.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Section! Vision! Section! Et columna, courisse! Section! Vision!
Alberto voit le sous-officier s'avancer droit sur la file et du coin de l'œil, il constate que le frisé est toujours plongé dans sa lecture. Au garde à vous, Alberto ne peut pas l'avertir. Le sous-officier bondit, il tombe sur le frisé qui pousse un petit cri et lui arrache les plaisirs d'Eléodora. Le soir, dans le dortoir, Vaiano est inconsolable. Non pas à cause de la punition qu'il a reçue. Nom de nom, dit Vaiano, je vous jure que je suis malheureux à en crever. J'ai perdu ma petite femme chérie. Alors j'ai dit, pour la moitié d'un paquet de cigarettes, je t'écris une histoire autrement mieux que les plaisirs d'Eléodora. Vaiano a dit, vrai ? Prends un stylo et du papier et que les anges t'inspirent. Et alors je me suis mis à écrire, assis sur une armoire, entouré de toute la section, comme lorsque le noir lisait. Alberto écrit une phrase d'une écriture nerveuse. Une demi-douzaine de têtes essaient de lire par-dessus son épaule. Il s'arrête, relève son stylo, relève la tête et réfléchit. Au fur et à mesure qu'il avance, son audace croît. Les mots vulgaires cèdent le pas à de grandes allégories érotiques. Mais les faits sont rares et cycliques. Les caresses préliminaires, l'amour normal et l'amour manuel, les extases, les convulsions, des batailles sans quartier entre des organes hérissés et de nouveau les caresses préliminaires, etc. Quand il a fini de rédiger, 10 pages de cahier recto verso, Alberto, subitement inspiré, annonce le titre « Les vices de la chair » et lit son œuvre d'une voix enthousiaste. Le dortoir l'écoute respectueusement. Ensuite, ils applaudissent et le serrent dans leurs bras. Quelqu'un dit « Alberto Fernandez, t'es un poète ». « Oui », disent les autres, « un vrai poète ». Et ce jour-là, le boa est venu vers moi, d'un air mystérieux, pendant qu'on se lavait, et il m'a dit « Fais-moi un autre petit roman dans le même genre et je te l'achète ». Brave gars, le boa, un branleur de première. Tu as été mon premier client et je me souviendrai toujours de toi. Tu as protesté quand j'ai dit 50 centimes la page, 100 points à la ligne. Et c'est alors vraiment que je me suis éloigné de mon enfance, du quartier blanc de Miraflores, et que j'ai commencé ma carrière de romancier. Et j'ai gagné pas mal de fric, en dépit des arnaqueurs. C'est par la rédaction de nouvelles érotiques, pour le compte de ses compagnons d'internat au lycée militaire, qu'est née la vocation d'un grand écrivain péruvien, prix Nobel de littérature en 2010, Mario Vargas Llosa. Il raconte cette anecdote dans son tout premier roman « La ville et les chiens », paru en 1963. L'œuvre autobiographique raconte la vie des élèves, les cadets, au collège Leoncio Prado de Lima, où le jeune Vargas Llosa est envoyé en 1950 par un père qu'il connaît à peine et qu'il déteste. Ce père, militaire de carrière, avait abandonné sa mère et avait soudain ressurgi dans leur vie, 13 ans plus tard, bouleversant leur tendre relation.
Il avait été très inquiet quand il a découvert que j'écrivais des poèmes. C'était probablement un raté, peut-être même un homosexuel. Alors ça l'a beaucoup inquiété et je crois que c'est la raison principale pour laquelle Il m'a envoyé au collège Léoncio Prado, qui était un collège militaire.
Pour Mario Vargas Llosa, l'entrée en pension marque la fin brutale d'une enfance heureuse et bourgeoise. À sa sortie, l'apprenti romancier n'a qu'une hâte, témoigner de l'horreur innocente faite d'humiliation et de peur vécue pendant 2 ans, de 14 à 16 ans. Ce soir, découvrons ce roman sulfureux qui a fait doublement scandale dans les années 60. D'abord publié en Espagne, où il ose affronter la censure franquiste. Puis au Pérou, où il déclenche la colère des autorités militaires qui organisent un auto-da-fé et brûlent 1000 exemplaires du livre dans la cour même du lycée de Lima.
Plusieurs centaines d'exemplaires ont brûlé dans cet acte inquisitoriel. Mais, et ça je crois que c'est très indicatif de ce qui était... pour les régimes militaires de l'époque, la culture. Ils ont brûlé les livres, mais ils ne l'ont pas interdit. Alors, le résultat était que le livre est devenu très populaire, un best-seller au Pérou, à ma grande surprise.
Parcourons donc ce passionnant récit d'adolescence qui mêle la violence des instincts à une grande naïveté. Commençons par les premières pages du roman. Nous sommes dans le dortoir des 5e années, les Bleus, surnommés les Chiens. Au milieu de la nuit, quelques élèves ne dorment pas et se réunissent en secret dans les sanitaires. Cette première partie du roman porte en exergue une citation de Keane, une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre. « On joue les héros parce qu'on est lâche. » « 4 », dit le jaguar. Les visages se radoucirent à la lueur hésitante que le globe diffusait dans le local. Le danger avait disparu pour tous, sauf pour Porfirio Cava. Les dés immobiles marquaient 3 et 1. Leur blancheur contrastait avec la saleté du sol. « 4 !» répéta le jaguar. « Qui est-ce ? » « Moi !» murmura Cava. « J'ai dit 4. »« Dépêche-toi. Tu sais, le deuxième à gauche. » Cava frissonna. Les lavabos étaient au fond des dortoirs des cadets. Une mince porte de bois les en séparait et ils n'avaient pas de fenêtre. Cette année, l'hiver était agressif et presque aucun recoin du collège n'échappait au vent qui, la nuit, réussissait à pénétrer jusque dans les chambres, dissipant la puanteur accumulée tout au long du jour. Mais Cava était né et avait vécu dans la Sierra. Il était habitué à l'hiver. C'était la peur qui lui donnait la chair de poule. « C'est fini, je peux aller dormir. Je prends mon tour de garde à 1 heure, » dit le boa. Un corps et une voix démesurés, un toupet de cheveux graisseux couronnant une tête proéminente. « Dès que tu seras de retour, réveille-moi, » ordonna le jaguar. « Tarde pas trop, il va être minuit. »« Oui, » dit Cava, « je vais m'habiller. » Ils sortirent. La chambrée était plongée dans l'obscurité, mais Cava n'avait pas besoin d'y voir pour s'orienter. Sans bruit, lentement, il quitta son pyjama, s'habilla, jeta sur ses épaules sa vareuse, il regarda dehors, la cour était vide, faiblement éclairée par les globes électriques de la piste au défilé. Le brouillard diluait le contour des 3 blocs de ciment abritant les dortoirs et leur donnait un aspect irréel. Le dos écrasé contre le mur, il resta quelques instants immobile sans penser. Maintenant, il ne pouvait plus compter sur personne. Il envia les cadets qui dormaient, les sous-officiers, les soldats engourdis dans le baraquement de l'autre côté du stade. Il constata que la peur allait le paralyser s'il n'agissait pas. Il calcula la distance. Il lui fallait contourner le réfectoire, les bureaux, les chambres des officiers, ensuite, protégé par les ombres du terrain vague, traverser une nouvelle cour, petite celle-là, qui prenait fin au pied des salles de cour, là où cesserait tout danger. La ronde n'allait pas jusque-là. Il commença à avancer, collé au mur. Arrivé au bout, il regarda avec anxiété, puis s'élança à pas rapide, plongé dans l'obscurité des édifices, évitant les taches de lumière. Les coups de fouet des vagues et les ressacs de la mer qui s'étendaient au pied du collège, au bas des falaises, couvraient le bruit de ses godillots. En arrivant au bâtiment des officiers, il frissonna et pressa le pas. À présent, il montait l'escalier des salles de cour. Il ne se souciait plus du bruit que faisaient ses godillots. Il n'y avait personne, que les bancs, les pupitres, le vent et les ombres. À grandes enjambées, il parcourut la galerie supérieure. Il s'arrêta. Le chétif faisceau de la lampe de poche lui découvrit la fenêtre. La deuxième à gauche, avait dit le jaguar. Effectivement, il ne tenait pas. Avec une lime, il retira le mastic, enleva le carreau avec précaution et le déposa par terre. Il palpa le bois et finit par trouver la poignée. La fenêtre s'ouvrit toute grande. Une fois dans la pièce, il promena sa lampe dans tous les sens. Sur une des tables, près du duplicateur, il y avait 3 piles de feuilles. Il lut examen bimestriel de chimie, cinquième année, durée de l'épreuve, 40 minutes. Les feuilles avaient été tirées le soir même, l'encre brillait encore. Il recopia rapidement les questions sur un carnet, sans en comprendre le sens. Il éteignit la lampe et revint vers la fenêtre. Il grimpa et sauta. Avec 1000 bruits simultanés, le carreau se brisa sous ses godillots. Cependant, il n'entendit aucun mouvement, aucun des cris pareils à des coups de feu poussés d'habitude par les sous-officiers, seulement sa respiration qu'entrecoupait la peur. Il attendit encore quelques secondes, puis sans même penser se servir de sa lampe, il rassembla comme il put les débris de verre éparpillés sur le dallage et les fourra dans sa vareuse. Il revint vers le dortoir sans prendre de précautions. Il aurait voulu être arrivé, se glisser dans son lit, fermer les yeux. Sur le terrain vague, en éparpillant les débris de verre, il s'égratigna les mains. À la portée de la chambrée, il s'arrêta. Il se sentait exténué. Une silhouette se dressa devant lui. « Ça y est ?» dit le jaguar. « Oui, allons au lavabo. »« J'ai bousillé un carreau, » murmura Cava. Les mains du jaguar lui tombèrent dessus comme deux bolides blancs et s'incrustèrent dans le revers de sa vareuse. Cava chancela sur place mais ne baissa pas le regard devant les yeux furieux du jaguar. « Serrano !» dit le jaguar. « Il faut vraiment que tu sois Serrano. Si on nous pique, je te jure !» Cava posa ses mains sur celles du jaguar. Il essaya de les écarter sans violence. « Espèce de lâche !» dit le jaguar. « Il n'y avait personne dans la cour, » murmura Cava. « On ne m'a pas vu. Je ne suis pas un salaud, jaguar. Si on nous pique, c'est juste que je trinque tout seul. » Le jaguar le toisa de la tête aux pieds. Il se mit à rire. « Froussard de Serrano, » dit-il. « Tu en as pissé de trouille. Regarde ton pantalon. » Restons dans les dortoirs, un après-midi où il n'y a pas cours. Au collège militaire, c'est la loi du plus fort qui règne. Parmi les cinquièmes années, un garçon timide est devenu le souffre-douleur de tous. C'est un noir, surnommé l'esclave. Incapable de se battre, il accepte toutes les corvées et toutes les humiliations. Il tombe un jour aux mains des aînés, les cadets de quatrième année, qui lui infligent une séance de bizutage. L'esclave ne se rappelle pas à quelle section il fut emmené, ni par qui. Mais le dortoir était plein de fumée et d'uniformes, on entendait des rires et des cris. À peine eut-il franchi la porte qu'il se sentit frappé dans le dos. Il tomba par terre, fit un tour sur lui-même et resta étendu. Il essaya bien de se relever, impossible. Un pied pesait sur son estomac. 10 visages indifférents le contemplaient comme un insecte et l'empêchaient de voir le plafond. Une voix dit « Pour commencer, chantez-nous 100 fois « Je suis un chien » sur un rythme de corrido mexicain. » Il en fut incapable. Sonné, il avait les yeux qui sortaient de leurs orbites. La gorge lui brûlait. Le pied fit pression sur son estomac. « Il ne veut pas, » dit la voix. « Le chien ne veut pas chanter. » Alors les visages ouvrirent la bouche et lui crachèrent dessus. Pas une fois, mais plusieurs. À tel point qu'il dut fermer les yeux. « Debout !» lui ordonna la voix. Il se releva, se passa la main sur la figure. La voix hurla. « Quelqu'un vous a dit de vous nettoyer la gueule ? Non, personne !» Les bouches se rouvrirent et il ferma les yeux, automatiquement, jusqu'à ce que ça s'arrête. La voix demanda « Vous êtes un chien ou un être humain ?»« Un chien, mon cadet. »« Alors qu'est-ce que vous faites debout ? Les chiens, ça marche à quatre pattes !» Il se courba, en posant les mains par terre. Le feu qu'il ressentait dans son estomac ressurgit avec plus d'intensité. Près de lui, ses yeux découvrirent un autre garçon à quatre pattes également. « Bon, dit la voix, quand deux chiens se rencontrent dans la rue, qu'est-ce qu'ils font ?»« Répondez, cadet, c'est à vous que je parle. » L'esclave reçut un nouveau coup de pied dans le derrière et répondit sur le champ. « Je sais pas, mon cadet. »« Ils se battent, dit la voix. Ils aboient et se lancent l'un contre l'autre et ils se mordent. » L'esclave ne se rappelle pas la tête du garçon qui avait été bizuté en même temps que lui. Il devait appartenir à l'une des dernières sections vu qu'il était petit. Il avait le visage défiguré par la peur et la voix s'était à peine tue que l'autre s'avança vers lui en aboyant l'écume aux lèvres. L'esclave sentit à l'épaule une morsure de chien enragé. Alors tout son corps réagit et comme il aboyait et mordait, il était persuadé que son corps s'était couvert d'un pelage rêche, que sa bouche était un museau pointu et que sur son dos sa queue claquait comme un fouet. « Ça suffit, dit la voix, c'est vous qui avez gagné. » Le môme, par contre, nous a trompés. C'est pas un chien, c'est une chienne. Vous savez ce qui se passe quand un chien et une chienne se rencontrent dans la rue. « Non, mon cadet, dit l'esclave. Ils se lèchent. Pour commencer, ils se flairent là où il faut, puis ils se lèchent. » Après, on le fit sortir de la chambrée et on l'emmena sur le stade. Il ne pouvait se rappeler s'il faisait encore jour ou si la nuit était tombée. Là, on l'avait déshabillé et la voix avait ordonné de nager sur le dos, sur la piste, autour du terrain de foot. Après, on l'avait ramené dans une chambrée de quatrième. Il avait dû faire les lits, chanter et danser sur une armoire, cirer des godillots, nettoyer le carrelage avec sa langue, forniquer avec un oreiller, boire de l'urine, tout cela dans un vertige fébrile. Et brusquement, il s'était retrouvé dans sa section, étendu sur son lit, en pensant « Je jure que je m'échapperai dès demain ». La chambre était silencieuse. Les garçons se regardaient mutuellement, et bien qu'on les ait frappés, peinturlurés, qu'on leur ait craché et pissé dessus, ils se montraient graves et cérémonieux. C'est cette nuit-là, après le couvre-feu, que le cercle était né.
Leoncio Prado était un collège très particulier au Pérou. C'était un collège où pratiquement toutes les classes sociales étaient représentées. Bien sûr, chaque garçon apportait à cette milieu, disons, concentrationnaire. Les préjugés, les stéréotypes, les ressentiments de son milieu. Et ça donnait à l'atmosphère du collège militaire quelque chose de très violent. Et très... Pour moi, ça a été un choc au début. J'ai vécu des semaines et des mois très difficiles.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. He visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. He visto una luz al otro lado del río.
Soumis au bizutage, aux corvées et aux manœuvres militaires, les cadets partagent aussi quelques moments de légèreté. Le cercle, qui réunit de fortes têtes comme le Jaguar, le Boa et Alberto le Poète, s'est créé pour venger les cinquièmes années de tous les affronts. Ce sont eux qui, chaque nuit, tiennent un conseil de guerre dans les lavabos du dortoir. Mais le dimanche soir est un moment de répit. De retour de permission, les garçons de la section évoquent les plaisirs du week-end, leur sortie dans les rues populaires de Lima. Parmi ces jeunes coqs, il s'agit toujours de prouver sa virilité. C'était Vaiano qui avait communiqué à tout le dortoir son nom de guerre. Une semaine plus tard, la moitié de la section la connaissait. Et le nom de Pied Doré se mit à résonner aux oreilles d'Alberto comme une musique familière. En rêve, ce nom se présentait doté d'attributs charnels, étranges et contradictoires. Une présence qui s'évanouissait quand il allait la toucher. Personne ne soupçonnait qu'il ne connaissait la Pied Doré que par ouï dire, car il multipliait les anecdotes et inventait toutes sortes d'histoires. Mais plus il décrivait d'aventures sexuelles à ses camarades, qui riaient ou qui, sans le moindre scrupule, portaient la main à la poche, plus intense était sa certitude que jamais il ne se trouverait au lit avec une femme, excepté en rêve. Alors il se sentait accablé et il se jurait qu'à la prochaine sortie, il irait dans le quartier de Huatica, même s'il lui fallait voler 20 sols et choper la vérole. Le dimanche suivant, il descendit du tramway au croisement de l'avenue 28 des Rouliots et de l'avenue Wilson. Il pensait « J'ai 15 ans, mais je fais plus. Il n'y a pas de raison que je sois nerveux. » Il se trouva bientôt au milieu d'une foule d'ouvriers et de boniches, métis aux cheveux plats, indiens cuivrés, mulâtres souples qui dansaient plutôt qu'ils ne marchaient. Il savait qu'il était dans le district de la Victoria à cause de cette odeur de bouffe qui imprégnait l'atmosphère, une odeur presque visible de boudin et de transpiration, de pisco et de pied. Son visage arborait comme un sourire de supériorité, mais son regard était plein d'angoisse. Il n'avait plus que quelques mètres à faire. Il savait par cœur que la maison de la Pied Doré, c'était la deuxième. Il y avait trois hommes à la porte, l'un derrière l'autre. Alberto regarda par la fenêtre une minuscule antichambre en bois qu'éclairait une lumière rouge. Une main lui toucha l'épaule. « Jeune homme, » dit une voix qui empestait l'oignon, « vous êtes aveugle ou vous faites le malin ? Personne ne me fourre le doigt dans l'œil, sachez-le, ni où je pense. Mettez-vous à la queue et cherchez pas à resquiller. » « Ça va, » dit Alberto, « vous énervez pas ?» Il prit la queue, s'appuya contre le mur, fuma, l'une après l'autre, quatre cigarettes. L'homme qui était devant lui entra et ressortit rapidement. Il s'éloigna en murmurant quelque chose concernant le prix de la vie. Une voix de femme dit de l'autre côté de la porte « Entre !» Il poussa la porte. « Je n'ai plus peur, » pensa-t-il, « je suis un homme. » La chambre était aussi petite que l'antichambre. La lumière rouge avait l'air plus intense, plus crue. La pièce était pleine d'objets et pendant quelques secondes, Alberto se trouva perdu, son regard erra. Il passa même rapidement sur la femme couchée sur le lit sans distinguer son visage, ne retenant d'elle que les formes sombres qui décoraient sa robe de chambre. Puis de nouveau, il se sentit serein. La femme s'était redressée. Elle était toute petite, à peine si ses pieds effleuraient le sol. Ses cheveux teints laissaient voir un fond noir sous la tignasse des boucles blondes. Le visage très maquillé souriait à Alberto. Il baissa la tête et vit ses pieds, grassouillés, comme deux poissons de nacre, charnus. « On les avalerait d'une seule bouchée », comme disait Vaiano. Elle partit d'un éclat de rire. « Tu es de Leoncio Prado, » dit-elle. « Première section de la cinquième année ?»« Oui, » dit Alberto. « Aujourd'hui, ça fait 8 », dit-elle. « La semaine dernière, il en est venu je ne sais pas combien. Je suis leur mascotte. » « C'est la première fois que je viens, » dit Alberto en rougissant. « Je... »« Qu'on vienne pas me raconter d'histoire, » dit-elle sans s'arrêter de rire. « Tous les jours, il s'en ramène un qui vient pour la première fois. Je travaille pas gratis, moi. »« C'est pas ce que je veux dire, j'ai de l'argent. J'aime mieux ça. Pose-le sur la table de nuit et grouille-toi, petit cadet. » Alberto se déshabilla, lentement, pliant ses vêtements l'un après l'autre. Elle le regardait d'un air détaché. Puis, quand il eut tout quitté, elle se traîna sur le dos et ouvrit sa robe de chambre. Elle était nue, mais elle portait un soutien-gorge rose un peu tombant qui laissait voir la naissance des seins. Elle était vraiment blonde, pensa Alberto. Il se laissa tomber près d'elle. Rapidement, elle lui passa les bras autour du cou et l'étreignit. Peu après, il sentit les jambes de la femme parcourir son dos et descendre jusqu'à ses fesses. La bouche de la femme était près de son oreille et il entendit quelque chose, un murmure très bas, puis un juron. Les mains et les pieds de la femme s'immobilisèrent. « On est là pour faire la sieste ou quoi ?»« Te fâche pas, » balbutia Alberto. « Je sais pas ce qui m'arrive. »« Moi, je le sais, » dit-elle. « T'es un branleur. » Il rit sans enthousiasme et dit un gros mot. La femme lança de nouveau son grand éclat de rire vulgaire et se leva en le poussant. « T'es peut-être bien un vrai petit saint, » dit la femme. « Allonge-toi. » Alberto s'étendit sur le lit. Il voyait la Pied Doré à genoux à côté de lui, la peau claire et un peu rougie. La lumière qui venait de derrière assombrissait légèrement ses cheveux. Et il pensait à une figurine de musée, à une poupée de cire, à une guenon qu'il avait vue dans un cirque. Et il ne se rendait même pas compte de ce que faisaient ses mains, de leurs mouvements. Il n'entendait pas non plus cette voix grasse qui le traitait de cochon. Puis les objets et les formes disparurent, et il ne resta que la lumière rouge qui l'enveloppait. Les plaisirs sont fugaces et le retour à la réalité plus difficile encore. Bientôt la tension monte parmi les cinquièmes années. Cava, le voleur de sujets d'examen, a été dénoncé et arrêté. Il sera dégradé en public et renvoyé de l'école. Dans la première section, les soupçons vont bon train quant à l'identité du traître. Le jaguar et le boa jurent de venger leurs camarades.
Un solo tiro. Entendido.
Entendido.
Quelque temps plus tard, pendant des manœuvres militaires, un drame survient.
Entendido.
A sus posiciones. Exécution !
Le capitaine Garrido porta ses jumelles à ses yeux. Au milieu de la colline, à 4 ou 5 mètres de distance l'une de l'autre, on apercevait les cibles, de parfaites circonférences blanches. Il aurait aimé lui aussi les viser, mais c'était au cadet maintenant de le faire. Pour lui, l'exercice consistait seulement à observer le bon déroulement des opérations. En abordant les pentes de la colline, Gamboa s'aperçut que les cadets étaient réellement fatigués. Plusieurs couraient la bouche ouverte, le visage livide. Dans leur regard, Gamboa lisait l'angoisse avec laquelle ils attendaient qu'on leur crie de faire halte. Mais il ne donna pas cet ordre. Il regarda les circonférences blanches et de l'autre côté des cibles, la crête de la colline, une grande courbe massive qui les attendait. Gamboa vit venir à lui le capitaine Garrido. « Ça leur plaît, dit le capitaine. Allez, voyous, regarde-les. On dirait qu'ils vont au bal. » »« Oui, dit Gamboa, ils se croient à la guerre. Si un jour il leur fallait se battre pour de bon, dit le capitaine, ils feraient des déserteurs ou des lâches. » Mais heureusement pour eux, je ne pense pas que le Pérou connaisse jamais une véritable guerre. Mais mon capitaine, répliqua Gamboa, nous sommes entourés d'ennemis. Vous savez bien que l'Équateur et la Colombie n'attendent que le moment opportun pour nous arracher un morceau de forêt vierge. Mes histoires, tout ça, dit le capitaine d'un air sceptique. Maintenant, ce sont les grands qui arrangent tout avec leur diplomatie. Au Pérou, on est militaire pour les couilles du diable, tout simplement. Gamboa se tourna vers le capitaine Garrido, mais celui-ci avait l'air distrait. Il regardait l'horizon d'un œil vague. Gamboa porta le sifflet à ses lèvres. « Première ligne d'attaque, préparez-vous à entrer en action !» Il regarda sa montre. Il était 9 heures précises. Il donna un grand coup de sifflet. La première file d'attaque, divisée en 3 corps, démarra. Les 3 groupes s'ouvrirent en éventail, tel un paon dressant son orgueilleux plumage. Les cadets couraient courbés sur eux-mêmes, la main droite agrippée au fusil qui pendait perpendiculaire, le canon visant le ciel de travers. Puis Garrido entendit un second coup de sifflet, plus lointain, et sur le champ, comme pulvérisé par une rafale invisible, la ligne disparaissait entre les herbes hautes. Le capitaine pensa aux soldats de laiton des baraques foraines quand le plomb les abat. Et aussitôt, Gamboa, courant lui aussi pour contrôler les détails de progression, se mit à hurler. « Pourquoi ce groupe avance-t-il ? Rospigliosi, espèce d'âne, vous avez envie de vous faire descendre ? Faites bien attention de ne pas enterrer vos fusils !» Les cadets, oubliant la présence du capitaine, se moquaient de ceux qui progressaient avec Gamboa. « Vaiano le Noir se laisse tomber comme un sac. Il doit avoir les os en caoutchouc. Et l'esclave, cette merde qui a peur d'égratigner sa frimousse !» Au milieu des opérations, Gamboa agitait les bras, donnait l'impression de viser certains cadets et de leur tirer dessus avec le doigt pointé. Et bien qu'il ne puisse pas les entendre d'aussi loin, le capitaine Garrido devinait facilement ses ordres. Et subitement, il entendit les coups de feu. Il regarda sa montre. Exact, pensa-t-il. 9h30 précises. Il observa avec les jumelles. En effet, l'avant-garde se trouvait à la distance prévue, tirant sur les cibles. Il observait le visage des tireurs, face congestionnée, imberbe, un œil fermé et l'autre rivé sur la rainure de la hausse. Le recul de culasse ébranlait ces jeunes corps qui devaient se relever, tirer en se baissant, se jeter une nouvelle fois par terre et tirer, enveloppés dans une atmosphère de violence qui n'était qu'un simulacre. Parce que le capitaine Garrido savait bien que la guerre, c'était autre chose. C'est alors qu'il aperçut la silhouette verte sur laquelle, pour un peu, il aurait pu marcher, et ce fusil, au canon monstrueusement fiché en terre, au mépris de toutes les instructions. Il ne comprenait pas ce que pouvait signifier ce corps et ce fusil abattu. Il se pencha, le garçon avait le visage contracté par la douleur, les yeux et la bouche grands ouverts. La balle l'avait atteint à la tête. Un filet de sang lui coulait le long du cou. Le capitaine laissa tomber ses jumelles, souleva le cadet et se mit à courir en criant
« Gamboa ! Gamboa ! Gamboa ! Halte ! »
Mais la première compagnie, des scarabées tous pareils, escaladant la pente dans la direction des cibles, n'entendait pas ces cris. « Gamboa, venez vite !» Soudain, les scarabées s'arrêtèrent, puis dégringolèrent la pente à toute vitesse. Ce fut Gamboa qui arriva le premier à son côté. Le capitaine cria « Vite à l'infirmerie et on se grouille !» Brusquement, Gamboa arracha le cadet des bras de Garrido, le jeta sur ses épaules et accéléra la course. Les cadets regardaient avec épouvante le visage qui se balançait sous l'effet de la course, un visage pâle, hâve, qu'il connaissait bien. « Cadet !» cria le capitaine. « Arrêtez la première voiture qui passe !» Le capitaine vit Gamboa s'éloigner et demanda à l'un des sous-officiers. « Il est de la première compagnie ?»« Oui, mon capitaine, de la première section. »« Comment s'appelle-t-il »«
Ricardo Arana, mon capitaine. »
Il hésita un instant et ajouta « On l'appelle l'esclave. » De retour au collège, les cadets sont sous le choc. Peu de temps après, l'esclave succombe à sa blessure. Le directeur de l'école décide d'étouffer l'affaire. La thèse officielle est qu'il s'agit d'un accident, que le cadet Ricardo Arana s'est blessé lui-même au cours de la manœuvre. Mais pour Alberto le poète, la mort de son seul ami lui cause un véritable cas de conscience. L'esclave lui avait confié qu'il était amoureux d'une jeune fille de Lima, Teresa. Mais consigné à la caserne à la place des autres, il n'avait pu partir en permission et lui faire sa déclaration. Trahissant son ami, Alberto avait rendu visite à la jeune fille et l'avait séduite. Voici leur retrouvaille la semaine suivant le drame. Du coin de sa maison, elle vit à une certaine distance la silhouette en uniforme sombre et le képi bleu. Immédiatement, elle fut surprise par son immobilité de mannequin. Alberto avait les épaules tombantes, la tête basse et le corps fuyant. Teresa lui fit bonjour, mais il ne la vit pas. « L'uniforme lui va bien », pensa Teresa. Et comme ses boutons brillent, on dirait un cadet de l'école navale. Alberto leva la tête quand elle ne fut plus qu'à quelques mètres. Teresa sourit, il fit un geste de la main. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» pensa Teresa. Alberto était méconnaissable, vieilli. Son visage était exsangue. Il avait le regard égaré. « Il y a longtemps que t'es sorti ?» dit Teresa en scrutant le visage d'Alberto. « J'ai cru que tu viendrais que cet après-midi. » Alberto ne répondit pas. Il la regardait avec un regard vide, de chien battu. « L'uniforme te va bien ?» dit-elle à voix basse. « J'aime pas l'uniforme, dit-il d'une voix blanche. Je l'enlève dès que j'arrive à la maison. J'ai pas eu le temps de passer chez moi. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Teresa. « Pourquoi t'es comme ça, dis-moi. » « Non, dit Alberto en détournant le regard. « J'ai rien. J'avais envie de te voir. » Teresa attendait un peu penchée vers lui et elle le regardait avec tendresse pour l'encourager à continuer de parler. Elle fut soudain prise d'angoisse. Que dire ? Que faire pour qu'il se sente en confiance ? Comment le consoler ? Son cœur s'était mis à battre très vite. Elle hésita un moment encore. Brusquement, elle fit un pas vers lui et lui prit la main. « Viens chez moi, dit-elle. Reste déjeuner avec nous. »« Non, dérange pas ta tante. Je viendrai te chercher cet après-midi. Viens, viens donc, insista-t-elle. Sois pas stupide. » Alberto la suivit. Sur le seuil, Teresa lui lâcha la main et lui dit dans un murmure « J'aime pas te voir triste. » Le regard d'Alberto parut s'humaniser. Son visage souriait maintenant de reconnaissance et se rapprochait d'elle. Ils s'embrassèrent sur la bouche très rapidement, puis ils entrèrent. La tante était encore au marché. Alberto prit un siège. Teresa s'assit près de lui. Elle vit qu'il avait les cheveux sales et tout emmêlés. « Qu'est-ce qui t'est arrivé samedi dernier ?» demanda Teresa. « Pourquoi t'es pas sorti ?»« Arana est mort, » dit Alberto. « On l'a enterré mardi. »« Quoi ?» dit-elle. « Arana, le garçon du coin ? Il est mort ? Mais c'est pas vrai. Tu veux dire Ricardo Arana ? Ça s'est passé samedi dernier, à l'exercice. On faisait un exercice de tir, il a reçu une balle en pleine tête. Mais, dit Teresa, l'air confus, je le connaissais très peu. Ça me fait quand même beaucoup de peine. C'est horrible. Il était bien dans la même section que toi, pas vrai ? C'est pour ça que tu es si triste ? En partie, oui, dit-il lentement. C'était mon ami. Et puis, oui, dit Teresa. Pourquoi t'es tellement bizarre ? Il t'est arrivé autre chose ? Elle s'approcha de lui et l'embrassa sur la joue. Alberto ne bougea pas et elle se redressa toute rouge. « Ça te semble peu ?» dit Alberto en colère. « Ça te semble peu qu'il soit mort comme ça ? Et moi qui n'ai même pas pu lui parler ? Il croyait que j'étais son ami et moi, et nous, tu savais qu'il était amoureux de toi. Ça te semble peu ? Mais je l'ai à peine vu, c'était un voisin, dit Teresa. Pourquoi tu me parles sur ce ton ? Pourquoi t'es fâché après moi ? On t'a dit quelque chose sur mon compte ? Tu t'en fiches qu'Arana soit mort, dit-il. Tu vois pas que je te parle de l'esclave ? Pourquoi tu changes de sujet ? Tu penses qu'à toi et... » Il s'interrompit parce que, en l'entendant crier, les yeux de Teresa s'étaient remplis de larmes. Ses lèvres tremblaient. « Excuse-moi, dit Alberto. Je suis en train de dire des bêtises. Je voulais pas te crier après. Seulement, il s'est passé tellement de choses, j'ai les nerfs à fleur de peau. Pleure pas, je t'en supplie, Teresa. » Il l'attira vers lui. Teresa appuya sa tête sur son épaule et ils demeurèrent ainsi un moment. Puis Alberto l'embrassa sur les joues, sur les yeux, sur la bouche. « Teresa, dit-il, je voulais te dire quelque chose. » « Oui, dit-elle, avec les joues en feu. Que je t'aime beaucoup, dit-il. » Ils furent interrompus par l'arrivée de la tante.
À la fin du repas, Alberto annonça qu'il s'en allait. Sur le seuil, au moment de lui dire au revoir, il ajouta « Peut-être qu'on va pas se revoir pendant quelque temps. Écris-moi au collège toutes les semaines, je t'expliquerai tout ça après. » Plus tard, quand Alberto avait déjà disparu de sa vue, Teresa se sentit perplexe. Que voulait dire cette remarque? Pourquoi il était parti comme ça? Et alors elle eut une révélation. Il est amoureux d'une autre fille et il n'a pas osé me le dire. Au collège, la vie n'est plus la même. Rongé par la culpabilité, Alberto va faire des aveux à la hiérarchie. Il sait que c'est l'esclave qui a dénoncé Cava. Non par traîtrise, mais par amour pour Teresa. En effet, après le vol des examens, la section entière était consignée jusqu'à ce que le coupable soit trouvé. L'esclave avait alors dénoncé Cava afin de pouvoir partir en permission et rejoindre sa bien-aimée. Il l'avait payé de sa vie. Mais Alberto connaît aussi l'identité de son assassin, le Jaguar. Suite aux révélations du poète, celui-ci est arrêté pour trafic d'alcool et le cercle est démantelé. Une discipline de fer règne sur le collège. Par un concours de circonstances, les deux garçons se retrouvent face à face. Le sergent, un homme trapu au faciès d'Indien, ouvrit la porte de la cellule. Alberto entra. Le Jaguar était assis sur le bas-flanc et le regardait. « Salut, » dit le Jaguar. Il n'avait pas l'air surpris de le voir là. Le sergent avait fermé la porte. La cellule était dans la pénombre. La moitié du visage du Jaguar était éclairée par une faible lueur. « Salut, » dit Alberto. « T'as des cigarettes ?» demanda le Jaguar. « Non. » Le sergent va m'en donner. Pourquoi on t'a mis ici? Je sais pas. Et toi? Un enfant de putain est allé raconter des choses à Gamboa. Qui? Quelle chose? Écoute, dit le Jaguar en baissant la voix. Tu vas certainement sortir d'ici avant moi. Rends-moi un service. Viens, approche-toi qu'on ne nous entende pas. Alberto s'approcha, leurs genoux se touchaient. Dis au boa et au frisé qu'il y a un mouchard dans le dortoir. Je veux qu'ils cherchent qui c'est. Il a tout balancé, le vol, les examens, le cercle, le trafic d'alcool et jeux d'argent. Dis-leur qu'ils sont fichus s'ils le découvrent pas. Et toi avec, et tout le dortoir. C'est un type de la section, personne d'autre pouvait savoir. On va t'expulser, dit Alberto. Et on t'enverra en prison. Gamboa me l'a dit. Dis-leur de mener leur enquête et de me jeter un papier par la fenêtre avec le nom du coupable. Qu'est-ce que t'y gagnerais? Rien, dit le Jaguar. Moi, ils m'ont déjà baisé, mais il faut que je me venge. T'es un salaud, Jaguar, dit Alberto. J'aimerais qu'on te mette en prison. Le Jaguar avait fait un petit mouvement. Il tourna la tête pour dévisager Alberto. À présent, tout son visage était éclairé. T'as entendu ce que j'ai dit? Crie pas, putain, dit le Jaguar. Tu tiens à ce que le lieutenant arrive? Un salaud, murmura Alberto. Un assassin. Tu as tué l'esclave. C'est pas vrai, dit le Jaguar. Le mouchard qui a raconté ça, c'est qu'une petite pédale. « Dis-moi, ceux du dortoir, ils croient tous que j'ai tué Arana ?» Alberto ne répondit pas. « C'est pas possible, dit le Jaguar. Arana est un pauvre diable, n'importe qui pouvait le flanquer par terre d'une tape. Pourquoi je l'aurais tué ?»« Il valait beaucoup mieux que toi, dit Alberto. Tu fais le dur, mais c'est toi le pauvre type. C'était un type bien, il fichait la paix aux autres. Tu l'emmerdais tout le temps, jour et nuit. En entrant ici, c'était un type normal, mais à force de lui en faire voir, vous en avez fait un confini. T'es un pauvre type, Jaguar. » T'es un assassin et j'ai pas peur de toi. Tu lui en faisais baver, tout le monde lui en faisait baver pour t'imiter. Tu lui rendais la vie intenable et tu l'as tué. Gueule pas, imbécile. On va t'entendre. Je l'ai pas tué. Quand je sortirai d'ici, je chercherai le mouchard et devant tout le monde, je lui ferai avouer que c'est une calomnie. C'est pas un mensonge, dit Alberto. Gueule pas, bon Dieu. Je t'ai dénoncé, Jaguar. Je sais que tu l'as tué. Cette fois, Alberto ne bougea pas. Le Jaguar avait contracté tous ses muscles. « Tu as dit ça à Gamboa ?» demanda le Jaguar très lentement. « Oui, je lui ai dit tout ce que tu as fait, tout ce qui se passe dans le dortoir. Pourquoi t'as fait ça ?»« Parce que ça me faisait plaisir. »« On va voir si t'es vraiment un homme, » dit le Jaguar en se redressant. Le corps à corps commença dans le silence et la pénombre. Sous une pluie de coups, chacun étouffait ses cris pour ne pas alerter la garde.
France Inter, Guillaume Gallienne, ça peut pas faire de mal.
Some go on, some stay behind, some never move at all. Girl in amber. trap forever spinning down the hall. Let no part of her go unremembered, clothes across the floor. Girl in amber long to slumber shuts the bathroom door. The phone, it rings no more. The song, it spins since 1984. The phone, it rings no more. The song, it's been spinning now since 1984. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, don't breathe a word. Just step away and let the world spin. And now and turn, you kneel, lace up his shoes, your little blue-eyed boy. Take him by his hand, go moving, spinning down the hall. I get lucky, 'cause I tried again. I knew the world, it would stop spinning now since you've been gone. I used to think that when you died, you kind of wandered the world in a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more. The song, it spins now since 1984. The song, it's been spinning now. And if you hold me, I will tell you that you know that. If you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe a word. And let the world turn.
Et voici pour conclure l'une des fins de l'histoire. Le lieutenant Gamboa a pris au sérieux les accusations d'Alberto et tente de faire rouvrir le dossier. S'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un meurtre, la mort d'Arana ne relève pas seulement de la direction du collège, mais du ministère de l'Intérieur. Mais Gamboa et son sens du devoir se heurtent à l'aveuglement de la hiérarchie. Au-delà de la violence des mœurs qu'il dénonce, le roman de Mario Vargas Llosa a aussi fait scandale en s'attaquant à la conception de la justice militaire. Voici l'épilogue officiel de l'affaire. « Je n'y comprends rien, » dit le major. « Rien !» Puis il leva les yeux sur le lieutenant Gamboa, qui se tenait debout devant le bureau, le dos tourné à la fenêtre par laquelle on apercevait la mer grise et les étendues plates et brunes de la Perla. « Je suis extrêmement surpris, Gamboa. Voyons, vous êtes un officier distingué, vos supérieurs vous estiment. Comment l'idée vous a-t-elle pu vous venir de nous faire passer ce rapport ? Vous avez perdu la tête, mon vieux. C'est une bombe, ça. Une vraie bombe. Quel est le garçon qui a fait la dénonciation ?
Alberto Fernandez, mon commandant, répondit Gamboa, un cadet de la première section.
Pourquoi l'avez-vous mis au cachot ?
Par prudence. Le temps de mener l'enquête et le mettre à l'abri des autres cadets.
Cette accusation est imbécile. Absurde. Ce garçon s'est flanqué un coup de fusil par erreur. C'est une affaire réglée.
Pardon, mon commandant, dit Gamboa, il n'a pas été prouvé qu'il se soit tué lui-même. Avant, l'hypothèse de l'accident était la plus vraisemblable, ou à vrai dire la seule. Mais tout change à partir du moment où quelqu'un affirme qu'il s'agit d'un crime.
Des sottises ! Coupa le major. Vous êtes un trop grand lecteur de romans, Gamboa. Nous allons régler cette question une bonne fois pour toutes à cette discussion inutile.
Allez au poste de police et renvoyez-moi ces cadets dans leur dortoir. Dites-leur que s'ils parlent de cette affaire, ils seront expulsés. Et vous faites un nouveau rapport en omettant tout ce qui a trait à la mort du cadet Arana.
Je ne peux pas faire ça, mon commandant. L'accusé se trouvait derrière la victime au cours de l'exercice. Seul le conseil de discipline peut se prononcer à ce sujet.
Votre opinion ne m'intéresse pas,
dit le major d'un ton méprisant.
Je suis en train de vous donner un ordre. Gardez ces fabulations pour vous et obéissez. À moins que vous ne préfériez que je vous traduise devant le conseil. Rompez. Le sujet est clos. Comment avez-vous pu accorder du crédit à ce mauvais roman feuilleton ?
Légion ! Araranas, on nous !
Légion !
Vamos a ser 10 ranas !
Vamos !
15 !
Vamos !
20 !
Vamos !
À commencer !
Tous les écrivains, parfois sans le savoir, utilisent ces souvenirs et ces obsessions. Cela ne veut pas dire qu'un roman n'est qu'une autobiographie dissimulée. Pas du tout. Je crois que l'autobiographie est une racine, n'est-ce pas ? Est un bon point de départ. Dans mon cas, oui, le point de départ de tout ce que j'écris, c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui est à l'origine de tout ce que j'écris.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Philippe Alares à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki. Merci, bonne soirée et à la semaine prochaine.
Beaucoup à Guillaume Gallienne et à son équipe. Nous retrouverons Ça peut pas faire de mal la semaine prochaine à 18h10 pour un second volet de lecture consacré à Mario Vargas Llosa. Après La ville et les chiens, Guillaume Gallienne lira des extraits des autres romans de l'écrivain péruvien.